Alors, on va changer de sujet, parler de la journée de marche de LFI, dimanche, donc qui s'est soldée par une victoire éclatante pour Jean-Luc et ses sbires, et un fiasco total pour les autres, hein, ça dépend où vous vous placez. 140 000 participants pour LFI, 30 000 pour la police, ça c'est normal, mais la petite nouveauté, 29 500 pour le cabinet d'études Occurrence. Alors on sait qu'il y a toujours des écarts hein, entre les calculs des autorités et ceux des organisateurs. En général, on coupe la poire en deux, voilà, on table, allez, 80 000. Voilà, et tout le monde est content. Mais là, il y a un cabinet qui a été mandaté par les médias pour un autre comptage. Et celui-là est quand même violent. 29 500, c'est donc pour un collectif de médias. Alors, il y avait France Info, il y avait RTL, il y avait Libé, il y avait Le Monde. Il y avait même Mediapart qui avait sorti les sous hein, pour mandater ce cabinet. Le comptage a été réalisé, écoutez bien, entre 15h04 et 17h28 au niveau du 132 boulevard Voltaire à Paris. Bon, alors, le 132 boulevard Voltaire à Paris, c'est le café Le Balto. Le comptage a commencé gentiment au petit noir, hein, normal. Ensuite, on a enchaîné avec les demi, et puis on est arrivé au jaune. Bah alors, vous imaginez un peu le jaune.
Bah si, c'est comme chez moi,
tu es jaune. Mais je veux pas boire.
Tu peux si, c'est beau au fer de main. Et pas plus haut que le vert.
Ah bah oui, pas plus haut que le vert. Après, on a dû enchaîner avec le gin tonic, le whisky coca pour finir au pina colada. Ceci pour expliquer le décalage hein, entre le comptage des marcheurs d'un côté et celui des dormeurs de l'autre. Alors, il faut savoir que la dernière grosse marche pour la défense de l'emploi et du pouvoir d'achat a eu lieu en 2009. Je sais pas si vous en souvenez, c'était époque crise financière. 3 millions en France, 1 500 000 selon la police, hein, comme toujours. Donc quand même 500 000 à Paris. Alors évidemment, 140 000 avec des chiffres qui, bien sûr, ont été revus un peu à la baisse, même dans les rangs de LFI. On parle de plus de 50 000 donc, personnes, mais ça fait un peu miséreux. N'oubliez pas quand même qu'il y a eu 1 200 000 personnes pour les funérailles de Johnny à Paris, quand même, hein, mine de rien. Alors, Jean-Luc Mélenchon rêvait d'allumer le feu, ça a été plutôt « j'ai un problème » ou alors « je t'attends ». Oui, il a attendu. Bon, alors chacun autour de la table verra midi à sa porte, mais quoi qu'il en soit, on ne pourra pas dire que cette marche aura été un énorme succès. Certains parlent même de désaveu pour le représentant français de l'Alliance bolivarienne, Jean-Luc Mélenchon, surnommé Skippy par certains. Skippy, hein, le grand gourou. Bon, alors, cette indifférence des Français était-elle vraiment étonnante ? Il faut savoir quand même, et vous m'en parlerez après, que la NUPES, depuis la présidentielle, est un petit peu dans la caricature, outrancière dans ses positions, le soutien maladroit de Jean-Luc Mélenchon à son successeur futur, donc M. Quatennens, la position ambiguë sur la manif, hein, en demandant aux manifestants une certaine violence, en faisant un parallèle avec 1789, et puis François Ruffin, qui demande de ne pas travailler le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur, Sandrine Rousseau, qui nous fait son plan barbecue, qui balance Bayou aux médias, son meilleur ennemi, Clémentine Autain, qui va faire ses courses dans l'Intermarché de Sevran avec ses pompes dorées et qui confond le prix d'un article avec son prix au kilo. Et on ne parle pas du voile, de ce qui se passe en Iran en ce moment où la NUPES, hein, vous le savez, à la NUPES on défend les femmes qui veulent tomber le voile donc là-bas. Et en France, bah, on défend celles qui veulent le mettre. Hein. L'objet de l'islam politique n'a pas véritablement la même valeur ici ou ailleurs. On est quand même sur un certain niveau, on rêvait d'une opposition constructive, on a une opposition un peu destructive et puis on n'oublie pas, bien sûr, toujours les sorties pleines de délicatesse de Jean-Luc Mélenchon, par exemple avec la reine Elisabeth.
C'est le moment qui les intéresse. Là, on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant 10 jours.
Voilà. Ou alors, je crois que c'était à Lille où il faisait donc un petit meeting lors de la braderie.
Non, je ne parlerai pas plus fort. C'est même pas la peine d'essayer de me tordre les bras. Ni vous, ni personne. Je parle comme ça. Vous taisez, vous écoutez. Ça vous intéresse pas, vous en allez.
Voilà, si t'es pas content, tu te casses. Bref, les Français, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais semblent moins adhérer donc à la NUPES aujourd'hui qu'il y a quelques mois en arrière.
Tu veux vraiment que je te dise ce que j'en pense?
Oui, bah oui, bien sûr.
De ta présentation.
Oui, vas-y.
Elle est absolument pas objective.
Ah bah...
Parce que je veux bien. Moi, je suis plutôt modéré, mais là, ta présentation, elle est pas objective, c'est dommage. Parce que tout en étant objectif, il y a des choses à dire, parce que je suis loin d'être d'accord avec ce que fait Jean-Luc Mélenchon, non, mais... y compris le positionnement à l'Assemblée nationale de ceux que j'ai soutenus qui font partie de la NUPES, parce que moi, je pense qu'effectivement, l'Assemblée nationale, il y aurait peut-être moyen, mais il n'y a pas que la NUPES, il y a aussi les LR qui sont... parlons pas des autres, les RN, j'en parle pas, mais qui pourraient travailler autrement. Puisqu'on est, on est dans une majorité relative.
Oui, mais moi je parle de la première opposition. Non, c'est comme ça qu'il se présente.
Oui, mais peu importe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le vis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale en direct aujourd'hui, je suis très en colère parce que on va vers un 49-3 sur le PLFSS également d'ici demain ou après-demain. Et donc. Nous qui travaillons au niveau de la mutualité pour construire des amendements constructifs, pour faire évoluer le PLFSS, ça va tout passer à la trappe parce qu'on est dans un système politique en France où il n'y a pas moyen que les oppositions et la majorité se rencontrent pour construire quelque chose ensemble, vu la situation économique dans laquelle on est. Et bon, moi, si tu veux, je dis à la fois, tu n'es pas objectif dans ta présentation, mais... Tu as aussi raison de le dénoncer parce que je pense qu'à un moment, il va falloir quand même qu'on se mette là aussi autour d'une table et qu'on discute des vrais problèmes que rencontrent nos amis, les Français, notamment les plus faibles. Aujourd'hui, il y a une situation qui est problématique.
Tu es en train de dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les politiques ont un problème de comportement.
Oui.
Un gros
mais j'ai pas
de comportement
de
parce que de l'ego, parce que pour l'image, parce que. Parce qu'ils font pas le job pour lequel ils ont été élus, c'est-à-dire s'occuper de nous tout simplement et nous proposer des choses qui nous permettent de bouffer, de nous déplacer, de nous chauffer, d'éduquer nos enfants. Enfin bon, tout simplement quoi. Donc oui, après on a les politiques qu'on mérite puisqu'on a voté pour eux. Quoi,
tu dis que je suis pas objectif, moi ce sont des faits que j'ai ressortis.
Non mais
je sais pas toi. Depuis le début de la nouvelle mandature, on est avec des sujets qui sont sortis par la NUPES, qui sont quand même des sujets hallucinants, qui n'intéressent personne.
Oui, non, mais malheureusement, il n'y a pas que la NUPES.
On les voit partout, ils sont sur tous les plateaux, avec la Sandrine Rousseau, qui est quand même...
C'est une caricature.
Est quand même tout le temps là, et qui, tous les jours, tweet des trucs absolument hallucinants. Je voudrais ton avis...
Je pense que la NUPES, c'était un rassemblement un peu, comment dire, c'était...
Hétéroclite.
Hétéroclite, oui, bien sûr. Surtout,
de circonstances pour faire une opposition.
De circonstances. Un intérêt objectif.
Ouais.
Il fallait s'unir pour sauver des sièges lors des élections législatives.
On est d'accord.
Mais ça n'a aucune cohérence entre des élus socialistes, entre des élus communistes qui sont républicains, entre des élus LFI ou... Parfois, on a des doutes entre les élus écologistes qui, bon, il y a une grande variété d'écologistes.
On fait un grand écart, quoi, dans la NUPES.
Donc, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas porter un projet, à mon avis, cohérent. Et du reste, c'est ce qu'on voit dans les médias. Et c'est pour ça que lorsque vous avez un groupe qui n'est pas cohérent, il fait de l'opposition tout azimut. Et c'est ce qu'on voit à l'Assemblée. Ça donne effectivement pas une bonne image de la démocratie représentative et de notre Parlement. Et là, on va avoir du coup 5 ans, je pense, parce que je ne vois pas venir de dissolution, malgré tout. 5 ans de 49-3 pour le budget, projets qui vont être négociés à droite à gauche, un peu avec les Républicains, un peu petit comme ça. Voilà, c'est ce qu'on va avoir. Mais on n'aura pas de grande politique publique pendant 5 ans. Et pourtant, on en aurait besoin.
Et je pense qu'on va avoir une LFI pendant toute cette période qui va monter les gens en puissance à les agacer, à les amener à se révolter, surtout avec un Mélenchon en tête, quoi. Pour moi, on ne se prépare pas de beaux jours. Quoi.
Bruno ?
Non, mais Rémi, il a bien résumé la situation de la NUPES. C'est que c'était plus un ramassis de personnes qui se sont regroupées là comme ça. On ne sait pas pourquoi. En fait, pour faire la promotion, ils ont été certainement pris en otage par un personnage qui est Mélenchon, qui s'imaginait grand Manitou de l'opposition, qui s'est bombardé à un moment donné Premier ministre, alors que... Voilà, ça a raté. Et là, maintenant, je pense aussi que dans les élus de la NUPES, il y a des gens qui découvrent la fonction et qui font feu de tout bois et qui mélangent tout. Qui mélangent tout et au détriment du niveau politique. Ça, on est d'accord.
Il faut reconnaître aussi qu'il y a des républicains. Ça a été rappelé par Rémi. Il y a des républicains parmi les élus qui font bien partie de la NUPES. Oui. Moi, j'en connais quelques-uns. Ils sont très attachés autant que nous à la République, à la démocratie, au dialogue.
Ne serait-ce que le Parti Socialiste, il s'est noyé dans cette NUPES.
Rappelez-vous. Dans le même sac. Alors, met Sandrine Rousseau, voilà,
ouais,
c'est
mais
tout le monde.
Jean-Claude, reprends un peu les coqs à l'âne du printemps passé. Quand je disais que les socialistes faisaient une connerie d'aller à la NUPES, et pourtant bon, c'est pas ma tasse de thé, j'ai dit mais il vaut mieux, comme les républicains l'ont fait, aller compter leurs électeurs. Ils sont allés, les socialistes, ils sont allés aux élections avec la NUPES pour essayer de tirer des pépettes, parce qu'ils avaient peur de... Mais à mon avis, ils ont fait une grande erreur stratégique. Ils auraient mieux fait d'avoir peut-être moins d'élus au Palais Bourbon, mais d'en avoir des bons. Et d'avoir peut-être même un groupe, ou peut-être pas, mais ça fait rien, ils n'auraient pas vendu leur âme au diable.
Oui, mais tu oublies un problème essentiel. Moi, je vois comme ça. On oublie un problème essentiel que j'analyse comme ça, mais j'ai peut-être pas raison. C'est que la NUPES, elle est ce qu'elle est, malheureusement, pas avec des choses toujours très positives, et je suis assez d'accord. Il n'empêche que s'il n'y avait pas eu ce regroupement, aujourd'hui, le RN serait beaucoup plus haut que ce qu'il est. On a vu ce qui s'est passé en Italie et tout. Donc, ce qui a évité qu'on ait une majorité d'extrême droite dans notre pays, c'est parce qu'il y avait la NUPES. Et c'est pour ça que moi, je suis très inquiet pour l'avenir. Parce que si on continue dans la démarche actuelle qu'on est en train de vivre depuis l'ouverture de cette nouvelle session parlementaire, moi je pense qu'il n'y a pas photo, dans 5 ans on les a quoi. Si on veut les avoir à la limite, pourquoi pas, on verra bien, on fera l'expérience avec eux, mais moi je ne les veux pas. Moi, je veux dire, je l'ai toujours dit ici, je ne vais pas changer d'avis, je ne les veux pas, je pense qu'ils
sont
dangereux.
Moi, je ne veux pas la NUPES non plus, je te rassure.
Ils sont dangereux.
Parce qu'ils sont dangereux aussi.
Oui, mais on a vu en Italie.
Non, mais ce n'est pas la NUPES, c'est LFI, la manière dont ils manipulent les autres partis à l'intérieur. Et les seules personnes que tu entends au sein de la NUPES, c'est Sandrine Rousseau, qui est d'ailleurs en train de déconstruire la gauche malgré elle.
Les Verts.
Ça, c'est son propos, même les Verts.
Clémentine
Autain. C'est Mélenchon qui surfe sur la vague de la colère, qui appelle à la haine. Et du coup, les écolos, tu les entends plus. Le Parti Socialiste, tu les entends plus. Le Parti Communiste, tu les entends plus. Ils sont étouffés parce qu'ils n'ont pas voulu un petit chez eux, plutôt. Ils ont préféré un grand chez les autres. Et du coup, ils se font bouffer et se font étouffer.
Mais ce que dit, et c'est très vrai, la France insoumise actuellement, c'est l'assurance vie d'Emmanuel Macron. Si on prend la première circonscription, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la NUPES? Je suis d'accord avec toi, la gauche n'aurait pas été au deuxième tour. On aurait eu un deuxième tour, Pascal Boyer, Front National. Et dans notre circonscription, c'est toujours facile de parler a posteriori, mais ça aurait été le Front National qui gagnait face à Pascal Boyer. Donc il y aurait eu beaucoup plus de députés Front National, absolument. Moi je dis encore Front National, s'il n'y avait pas eu cette union de la gauche. Mais pour autant, est-ce que c'est l'objectif de la gauche d'être seulement l'assurance vie d'Emmanuel Macron? J'ose espérer que non, j'ose espérer que la gauche a un peu plus d'ambition que ça, mais tant que ce sera la France Insoumise qui sera la locomotive d'union à gauche, ça ne pourra pas marcher, la gauche ne pourra jamais être majoritaire dans le pays.
Tant que ça sera Mélenchon qui est à la tête.
Oui, en plus,
parce que si tu mets quelqu'un d'un petit peu plus modéré...
Adrien Quatennens, c'est lui le successeur.
Blanche-Neige et Quatennens.
Non, mais
c'est lui qui est leader du groupe Supertramp.
Alors ça, franchement, ça c'est petit. Pardon. Ça c'est petit.
Non, mais je veux dire, voilà, ils ont fait l'actualité de A à Z sur tous les angles et pas les meilleurs. Donc c'est vrai que ces gens qui te donnaient des leçons.
Oui, c'est vrai que c'est toujours embêtant quand on est donneur de leçons et qu'on se prend le retour de manivelle dans la tête. Et Macron, ça c'est un vrai problème. Et ça c'est valable pour tous les politiques.
Mais ne nous en satisfaisons pas trop vite de cette situation.
On peut pas s'en satisfaire.
Parce que pensons à notre pays. Pensons à notre peuple qui souffre actuellement. Il y a une partie de notre peuple qui souffre beaucoup, qui aurait besoin d'être soutenu.
Je pense qu'il y a quand même pas mal de soutien en ce moment. J'ai le sentiment que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression
que Macron fait pas n'importe quoi.
On dit toujours, mais il ne suffit pas d'aller voir à l'extérieur comment ça se passe se satisfaire de ce que l'on a. Mais bon, j'ai le sentiment quand même que le gouvernement fait quelque chose quand même aujourd'hui, même si c'est peu, mais peut-être un peu quand même pour essayer essayer de relever un peu le niveau.
Il y a la question de fond que j'ai souvent débattu ici, mais je suis le seul à le faire, mais c'est pas grave. C'est la répartition des richesses. On peut pas continuer à faire qu'un pays comme le nôtre, il y ait des gens qui s'enrichissent de plus en plus. Je suis pas le seul à dire. L'autre jour, il y avait deux économistes à France Inter, il y en avait soi-disant un de gauche et un de droite.
Oui, oui.
À la sortie, ils disaient la même chose que ce que je dis moi. C'est-à-dire que on voit bien, quand on observe objectivement la situation, les pauvres sont toujours plus pauvres et les riches, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vous le dis, vous verrez dans quelques années, malheureusement, j'aimerais me tromper, mais vous verrez que dans quelques années, continuons comme ça, faisons qu'il y ait des millions de gens qui soient marginalisés, et il ne faudra pas s'étonner qu'un jour ou l'autre, ça explose vraiment, et que plus personne ne maîtrisera rien là, à ce moment-là.
Mais Jean-Claude, tu as raison, sauf que la solution, elle est mondiale. Qu'est-ce qui fait qu'il y a, dans les pays développés, une différence de plus en plus marquée entre les riches et les pauvres? C'est qu'on a eu une spécialisation au niveau de l'économie mondiale entre les biens hautement technologiques et les biens bassement technologiques. Dans les pays développés, on s'est spécialisé dans des biens hautement technologiques pour lesquels il fallait une main-d'œuvre qualifiée. Donc du coup, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il a fallu de plus en plus de travailleurs qualifiés, donc les salaires des travailleurs qualifiés ont augmenté. Et tout ce qui était bien, qui nécessitait pas énormément de savoir-faire, ça a été transféré dans les pays les plus pauvres. Où là, par contre, on le voit en Chine, on le voit en Inde, etc., les métiers peu qualifiés, il y a actuellement une tension sur les salaires sont en train d'augmenter pour les travailleurs peu qualifiés dans ces pays-là. Donc là-bas, il y a un rapprochement. Nous, par contre, ce qu'on a fait, c'est que dans les pays développés, on a piqué les travailleurs hautement diplômés et on les a fait venir chez nous. Donc du coup, il y a un manque dans ces pays-là. Et c'est ce qui fait que en France, aux États-Unis, au Japon, dans toute l'Union européenne, il y a de plus en plus, du fait de la loi de l'offre et de la demande, un écart salarial entre les travailleurs qualifiés et les travailleurs peu qualifiés. Mais si on n'a pas une réforme au niveau mondial, on ne s'en sortira pas. Ça ne peut pas être seulement la France, ni même l'Union européenne, qui peut faire en sorte qu'il y aura un rapprochement des salaires.
Qu'en pense
C'est d'autant plus vrai ce que tu dis sur les denrées alimentaires. Parce que moi, je vous garantis, pour être dans le milieu, que l'on ne se réserve pas des bons jours. Et quand tu dis que
quelques mois que tu nous le dis, ça.
Ouais, non, mais moi je suis dans la profession. Je vous garantis qu'il y a de la tension. Que tu dis qu'il y a des malheureux. Alors peut-être qu'on est moins malheureux que les autres, mais je peux te garantir qu'aujourd'hui les agriculteurs, les petites entreprises et tout, elles vont souffrir et elles vont souffrir beaucoup.
Elles ont déjà commencé. Quand il y a la tonne de blé qui a doublé l'énergie.
Parce que moi je suis quand même très inquiet pour l'économie. Nationale et mondiale aussi, parce que comme tu l'as dit, la solution elle est mondiale, parce qu'à un moment donné il faudra quand même qu'on se mette autour de la table. Alors dans le département, moi je suis un peu en colère parce que j'ai l'impression que sur l'énergie on parle que des stations de ski,
encore aujourd'hui,
mais je vous garantis que dans l'agroalimentaire on sait plus comment on fait, comment on va faire. Les gens qui ont aujourd'hui qui ont besoin de renouveler leur contrat d'énergie, ils se posent des questions et c'est la faillite, Je veux dire, il y a des gens, ils multiplient leurs charges par 5, 6 et ça prend. On passe de 7, 8% de frais énergétiques à 45%. Mais comment on fait? Comment on fait? Il faut savoir qu'il y a des producteurs de pommes, de pommes et de poires, qui n'ont pas démarré leur frigo cette année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on marche complètement sur la tête. Alors quand tu dis qu'il va y avoir plus de pauvres, il va y en avoir de beaucoup plus.
Parce c'est de cela que je parle.
Parce que je vais te dire, à un moment donné, on va crever de faim.
Oui.
On va crever de faim dans un pays développé.
Mais si vous voulez, un jour, on aura le temps, parce que là, j'ai pas eu le temps de préparer, mais j'aimerais qu'on ait le temps.
Mais non, il a pas le temps, il est à la retraite. Non.
Et à la retraite, il faut rien, bravo.
J'aurais envie qu'on pose le problème, parce que sur l'électricité notamment, et le gaz, ça vient pas d'aujourd'hui le problème. Parce que moi, j'ai fait grève à l'époque. 15 jours de grève, parce qu'on s'opposait à la libéralisation du marché de l'énergie au niveau européen. Et aujourd'hui, je me dis, oh combien on avait raison de manifester, parce que si l'entreprise telle qu'on...
Sauf qu'il y a quelques mois, tu nous as quand même dit que tu pensais que ça allait amener de la concurrence.
Quoi ?
Si. Un jour, tu nous as dit que tu pensais naïvement que ça allait amener de la concurrence sur le marché de l'électricité.
Oui, c'est pas moi qui le pensais, c'était ce qu'on nous présentait. On nous disait même que les tarifs allaient baisser, parce que la concurrence, ça fait baisser les tarifs. Oui. Aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe.
Moi, j'ai jamais compris pourquoi ça pouvait baisser. Jamais compris, parce qu'à un moment donné, quand tu donnes de l'énergie, quand tu donnes un produit à quelqu'un, quelqu'un qui va consommer ou vendre un produit qu'il n'a pas produit, je veux dire, ça ne peut pas marcher. Parce que ça s'appelle... C'est sur le marché de l'offre et de la demande, c'est que de la spéculation. Quand tu imposes à EDF
devant
du kilowatt, en dessous de son coût de production, ça peut pas marcher.
Mais j'ai jamais été favorable à ça, moi. Hein. J'ai dénoncé ça. Le fait que on demande à EDF de vendre à perte, c'est quand même, on marche sur la tête pour maintenir la concurrence. Mais aujourd'hui, c'est...
moi qui suis très libéral, j'ai jamais compris pourquoi on lâchait l'énergie. Jamais. Pourquoi on a lâché, par exemple, France Télécom ?
De la situation actuelle, qu'en pense notre ancien président ?
Ah, lui, il ferait mieux de prendre sa retraite définitivement.
Travaillé comme toi, on n'est pas sorti de l'auberge.
Lequel d'ancien président ?
François Hollande.
Oh, purée.
Bah quoi ?
Oh non.
Écoutez.
Quand l'inflation va vite et que les salaires vont moins vite, il y a un problème de pouvoir d'achat. Donc il faut que dans les entreprises, ça négocie. Pour autant, je ne crois pas à l'idée d'une grève générale qui viendrait paralyser le pays. Il y a un moment la nécessité d'ouvrir des discussions et de ne pas simplement essayer de compliquer encore la vie.
Il y a quelque temps, vous disiez humilié, si je reprends vos mots, par le spectacle de la NUP depuis quelques semaines.
Au moment où il y a tant de problèmes, le premier devoir d'une force politique, de famille politique, c'est de proposer des solutions. Ce n'est pas de dénoncer celui qui aurait commis telle ou telle violence ou séparation. Ce n'est pas de créer une polémique sur les barbecues. Ce n'est pas de s'en prendre au patriarcat. Ce n'est pas de savoir ce qu'il faut faire d'un député qui a, hélas, giflé sa femme, prendre des sanctions lorsqu'elles sont nécessaires. Mais surtout d'offrir aux Français une alternative. Pourquoi ils sont aussi inquiets et quelquefois malheureux ? Ils ne sont peut-être pas contents du gouvernement actuel. Ils ne sont peut-être pas satisfaits de ce qui s'est passé lors des dernières élections. Mais ils demandent, quelle serait l'issue ? Quel serait le débouché ? Et donc l'urgence, c'est de proposer un débouché politique. Le débouché social, ça c'est le rôle des syndicats.
Un débouché politique, ça veut dire que le leadership de Jean-Luc Mélenchon, il est légitime, il faut le remettre en question. Il n'incarne pas la gauche,
partie de la gauche, la plus importante.
Il a absorbé le Parti Socialiste.
Enfin, cette direction du Parti Socialiste. Mais la plus grande partie de la gauche, elle veut revenir aux responsabilités du pays en ayant des propositions à faire. Elle ne veut pas simplement se situer dans une manifestation en tenant des propos incantatoires ou en annonçant un Front Populaire dont on sait très bien qu'il ne se formera pas demain.
Alors ?
Il n'est pas objectif, hein. Il est un peu comme toi, il n'est pas objectif sur la news.
Non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est-à-dire, il enfonce des portes ouvertes, quoi. Franchement, il enfonce des portes ouvertes. Vous avez appris quelque chose de nouveau, là ?
Ah ben oui, parce que quand l'inflation dit... elle est plus forte que les salaires, il y a une perte de pouvoir d'achat. Ouais, attends, je ne savais pas ça.
Il nous a annoncé quelque chose de vraiment nouveau. Qu'un parti politique doit porter un projet politique, bien évidemment. Quoi,
oui, mais sauf que, visiblement, ce n'est pas le cas aujourd'hui de la NUPES. Ou de LFI.
Il veut juste dire qu'il avait oublié de le faire avant.
Ouais. Il a quand même été au pouvoir.
Comme vous tous. De toute façon, c'est la spécialité des politiques. C'est que quand ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont. Ce qu'ils aimeraient bien faire. Et quand ils n'y sont pas, ils disent ce qu'il faudrait faire. Mais quand ils y sont, ils le font pas.
Mais tu sais que vu l'état de délabrement du Parti Socialiste et de la gauche en partie qui est en train de se déliter, je pense qu'il va faire partir des prochains recours. Tu verras.
Ah,
tu verras.
Tu verrais François Hollande de nouveau
moi non plus, mais
se présenter.
Non.
Se présenter.
Dans le désespoir. On en reparlera.
On en reparlera, si tu veux.
Non, mais qui tente, oui, mais non, mais il sera.
Sinon, Nicolas Sarkozy, hein.
Oui, aussi, tant que tu y es, vas-y.
Avec les casseroles qu'il a, lui.
Ah, ce serait compliqué.